La formation professionnelle.
Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui.
Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show.
Mais le plus important, c'est qu'il est bélier.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais spécifier que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode-là. En fait, le premier était prêt à être diffusé. Il était programmé. J'essaie de prendre un petit peu d'avance, question de ne pas manquer une journée et aussi question de peut-être prendre un break la fin de semaine. Donc, je suis en train de travailler ma formule. J'ai déjà fait beaucoup d'épisodes d'avance et j'aimais moins ça parce que quand, mettons, tu as 10-15 épisodes d'avance, ben, supposons que demain matin, il arrive quelque chose que j'ai vraiment envie de parler, comme, je ne sais pas, une pandémie mondiale ou peu importe, ça se ramasse deux semaines plus tard. Des fois, ça, c'est totalement hors sujet. Supposons que on est l'été et qu'il y a une canicule, puis que, je ne sais pas, il y a quelque chose que je veux rebondir sur la canicule. Mais des fois, les deux semaines, ça fait que quand l'épisode est diffusé, tu as un petit manteau, tu as un petit coupe-vent quand tu l'écoutes. C'est comme peut-être un peu moins d'actualité. Donc, j'essaie de rester quand même relativement tight en bon français, rester proche de quand je parle, que ce soit des trucs d'actualité. Donc, jeudi matin, j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui. C'est diffusé dimanche et dans lequel je parle un peu de j'ai appelé l'épisode la loterie de la Providence, quelque chose comme ça. Et j'expliquais que j'ai commencé, là je vais aller un petit peu en détail, j'ai commencé ma formation d'adulte, ma formation académique d'adulte par le professionnel, comme on appelle le DEP au Québec. Et ça a été pour moi vraiment très formateur. J'ai eu des enseignants au DEP qui m'ont vraiment inspiré. Je vais dire ça comme ça, qui m'ont inspiré, qui m'ont incité à passer à l'action. Ce n'est pas le cas de tous les enseignants. Certains enseignants étaient un petit peu plus plates que d'autres. Il y en a un que son nom de famille, c'était Marchand, puis on l'appelait Marchand de sable parce qu'il nous endormait. Pierre, si tu nous écoutes, c'est encore en vie parce que 20 ans plus tard, tu avais déjà de l'air pas loin de la mort il y a 20 ans. Je ne sais pas si tu es encore en vie 20 ans plus tard ou si tu es mort comme un marchand de sable. Mais je n'aimerais pas d'autres noms, mais c'est ça, il y a eu des professeurs qui m'ont vraiment inspiré. Je pense, je ne vais pas nommer les noms de famille, mais Antoine, Daniel, puis André, c'est des professeurs qui, des enseignants, la langue française, les professeurs, c'est réservé à l'université. Donc, sinon, c'est des enseignants, des maîtres au primaire. Et ces enseignants m'ont vraiment... m'ont semé des graines dans la tête et ça m'a toujours suivi, ils m'ont inspiré. C'est pas le cas de toutes les étudiantes du DEP, c'est une clientèle qui est peut-être un petit peu plus difficile. Dans mon cas, j'étais en secondaire 5, je pense que c'était un cours éducation choix de carrière et l'école était venue, le DEP, le programme, il y avait trois professeurs qui étaient venus, trois enseignants, désolé, qui étaient venus faire un exposé parce qu'ils cherchaient du monde. Le cours, il restait de la place, puis ils voulaient faire la promotion. Ils étaient venus dans ma classe de ECC et j'avais adoré l'énergie des enseignants. C'était un domaine qui me passionnait, l'électronique. J'ai toujours voulu, quand j'étais jeune, je voulais être ingénieur en électronique. Je ne sais pas, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Je ne sais pas si j'aurais vraiment aimé ça, ingénieur, parce que c'est beaucoup de paperasse. J'aime beaucoup être sur le terrain aussi. Donc, le DEP, la formule, le matin, on avait, ça, grosso modo comme ça, tu as une partie du cours, c'est de la théorie, et ensuite, l'autre partie du cours, c'est de la pratique, dépendant c'est quoi le cours. Donc, c'est quelque chose de très on the field, c'est quelque chose de très intéressant. Et j'aimais l'électronique. Ça trahit mon âge. À l'époque, il y avait encore du monde qui faisait de l'électronique, mais quand j'ai fait ma formation en électronique, c'était fini l'électronique, là. Quoique, je crois qu'encore aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de perspectives d'emploi quand tu es bon en électronique. Je pense à tout ce qui est, mettons, maintenance, entretien de machines, que ce soit guichet automatique, peut-être en industrie. C'était de l'électrotechnique. Donc, tu sais, tout ce qui est automatisation, les robots, je crois qu'il y a encore une très bonne place. C'est des métiers très, très, très valeureux. Et comme les baby boomers sont partis à la retraite, je suis certain que présentement, il y a une mort d'opportunités si tu es capable d'avoir un tournevis, un fer à souder puis un multimètre dans les mains. Il y a encore une multitude d'opportunités de très bien. Je ne veux pas dire gagner sa vie parce que gagner sa vie veut dire qu'il faut que tu te forces pour travailler. J'aime pas ce mindset-là, mais pour générer des revenus conséquents au lifestyle que tu veux vivre. Donc, ces professeurs-là, ces enseignants-là, je pense que ça va être comme... Je pense que je ne fais plus de montage parce que je l'aurais coupé, professeur. Tu sais, je pense que j'aurais passé une heure à faire le montage de cet épisode-là. Ces enseignants-là, un moment donné, j'y regardais puis je me disais, un jour, là, c'était mon plan de carrière. J'ai dit, je vais faire quelque chose et un jour, je vais devenir enseignant au DEP. C'était clair dans ma tête. Pour moi, c'était un projet de retraite ou de pré-retraite, mais... C'est drôle parce que ça m'a fait penser à ça cette semaine. Puis je me suis dit, pourquoi c'était un projet de retraite? Est-ce que c'est quoi cette histoire-là? Puis je pense, là, c'est sûr qu'il y a 20 ans d'accumulation de données dans ma tête, là, fait que c'est dur de faire le ménage. Mais j'ai l'impression que c'est de la pression externe. Que je me disais ça parce que j'avais vraiment envie de faire ça, mais intérieurement, je savais que peut-être mon père n'aurait pas été super fier de, tu sais, comme... Il m'aurait dit, ah, tu mérites mieux ou whatever. Fait que je me disais, je vais faire d'autres choses. Puis quand je vais avoir d'expérience, je vais aller comme enseignant. D'ailleurs, c'est une bonne affaire parce que j'aurais pas pu être enseignant en sortant. Je veux dire, il faut que tu aies une expérience de la vie quand tu enseignes aux professionnels. Faut. Je ne sais pas s'il faut, mais je pense que ça l'aide beaucoup hein, d'avoir vu le marché du travail, d'avoir vu c'est quoi les contraintes, les défis pour pouvoir former cette nouvelle génération de travailleurs dans le métier, dans le field, parce que c'est le but de la formation professionnelle. Donc, je me dis ça. Et là, je pense à 25 ans, mettons, quelque chose comme ça, je retourne à l'école où j'ai fait ma formation, je suis allé parler avec mes profs, puis je disais, hey, j'aimerais ça faire ça, puis ils m'ont dit, ah, c'est un très beau métier, blablabla, ils m'ont fortement encouragé, tu as tout ce qu'il faut. Ils m'ont dit, faut que tu passes par je ne sais pas quoi, là, les ARH et tout. Bien sûr, j'ai fait d'autres choses. Ensuite, en 2019, il y a une bulle qui me passe au cerveau. Il y a une école très près de chez moi, une école professionnelle qui est en informatique, entre autres. C'est affaires informatiques, entrepreneuriat et il y a d'autres choses aussi. Fait que j'envoie un courriel là-bas, puis en gros, ben, ils prennent quasiment, je sais pas, un mois pour me répondre, pour me dire, oh, mais faut t'envoyer un CV au RH. OK, bon, OK, good. Je passe à d'autres choses. Pandémie arrive. L'an dernier, quand tu as des enfants, je suis inscrit à l'infolettre de l'école et par le fait même, je suis inscrit à l'infolettre de la CSDM, la commission scolaire. À la fin de l'année, on reçoit une chose de la CSDM et en bas du courriel, il y a nos emplois disponibles parce qu'on sait que présentement, il y a une pénurie d'emplois, donc ils essayent de maximiser les chances de trouver des gens. Et je vois enseignant, DEP, soutien informatique. Oh, hey, ça, c'est pour moi. Je clique là-dessus. Et comme tout bon processus de sélection gouvernementale ou publique, il y avait une date de tombée. Et quand j'ai lu le courriel, la date de tombée, c'était la veille. Ça va être comme, bon, il m'a manqué mon coup. Ouais. Meilleure chance la prochaine fois. Tu sais que ça fait 6 mois que je ne sais pas trop. Puis ça, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais ça fait 6 mois un petit peu que je cherche mon prochain défi, mon prochain sujet, ma prochaine entreprise, mon prochain... Et je crois beaucoup à la synchronicité. Et je me lève mercredi matin, je ne sais pas par quelle idée, mais je me dis, hey, peut-être qu'Imika, il cherche du monde. Fait que ce que j'ai compris, c'est que d'après moi, les enseignants, quand ils partent à la retraite ou qu'ils démissionnent, ben, ils partent à la fin de l'année scolaire. Donc, au mois de juin, c'est un bon moment pour regarder s'il y a des emplois disponibles. J'ouvre mon téléphone, je tape « Emploi Imika » et je tombe sur le site. Et bingo, il y a une offre, la seule offre d'emploi qui me convient. Je pense que c'est la seule offre dans l'école. C'est enseignant en soutien informatique. Oh! Là, je regarde ça. Et la date de tombée est exactement le 15. On est le 15 au matin et j'ai jusqu'au 15, 3h30 pour envoyer ma candidature. Je fais OK. Fait que je lâche tout ce que j'ai à faire. Je me fais un CV parce que je pense que tu le sais, je n'ai pas fait beaucoup de CV dans ma vie. Je me fais un CV, une lettre de présentation. J'ai parlé un petit peu du acquis de droit. C'est pour ça du bonjour, virgule, qui remplace la formule de politesse. J'envoie ça. Et je ne sais pas pourquoi je le sens vraiment bien. OK, je vais aller dans cette direction-là. Pour la première fois de ma vie, et là, je promets rien, je me commets à rien, mais pour la première fois de ma vie, j'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai le sentiment que je pourrais travailler là jusqu'à la fin de ma vie. Sincèrement, pas la fin de ma vie, là, mais la fin de ma vie professionnelle. C'est proche de chez moi, ça se fait à pied. Je serais capable d'avoir un impact sur des futurs travailleurs. J'ai assez travaillé mes soft skills, comme on appelle en français le savoir-être, pour peut-être motiver quelques personnes. J'ai vraiment l'impression que j'aurais un très gros impact. Et le modèle de travail, c'est sûr, j'ai juste vu le côté, moi j'étais étudiant, je n'étais pas enseignant, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'a toujours intéressé. Autant les conditions, parce que on peut en parler longtemps, mais on est dans un monde de performance. Fait que quand tu travailles sur le terrain, puis là, c'est pas négatif, c'est pas quoi que ce soit, on s'attend de toi à ce que tu performes pas mal tout le temps. Hein? On s'entend, là, on t'engage, on te paye cher, tu fais ça, ben fais ça tout le temps, puis comme... J'ai de la difficulté avec ce rythme soutenu-là. C'est une des choses que j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai travaillé chez Satellite WP l'année passée. Tu sais, ça te prend un minimum d'heures facturables dans ta semaine. Il n'y a pas vraiment de place à... Puis là, je ne chiale pas contre la compagnie, c'est le système capitaliste en tant que tel. Quand tu as pris 15 minutes pour rassurer un client, ben il n'y a pas vraiment, puis que sa journée va mieux après, ben, tu n'as pas vraiment d'incitatif dans le monde de performance dans lequel on vit. Parce que théoriquement, si tu as pris ces 15 minutes-là puis que tu ne l'as pas facturé, à la fin de la semaine, ça peut même être toi qui es puni. C'est pas ce qu'il faisait chez Satellite WP. Il comprenait ce que je faisais, puis il me laissait faire un peu. Cela dit, c'est mathématique. Il faut que tu aies un tant de nombre d'heures facturables pour qu'eux puissent faire ta paye. Si tu es en bas du nombre d'heures facturables et qu'ils ne puissent pas faire ta paye, tu as beau rendre la vie des clients merveilleuse, c'est pas là que ça fonctionne. Versus le côté éducation, ce que j'aime, c'est que quand ton cours est fini, c'est un peu comme quand je fais des lives. Hein, des lives, je les édite pas. Quand je fais des lives sur YouTube, des diffusions directes, tu les édites pas. Donc, tu donnes ta performance, tu donnes ta prestation. Et quand c'est fait, c'est fait. C'est pas, c'est sûr qu'il y a de la préparation avant et tout, mais c'est pas comme un nombre d'heures. C'est sûr qu'il y en a des bons, il y a des bonnes performances, il y a des moins bonnes performances sur la fin, sur la globalité. L'important, c'est que les apprenants, eux, décident de passer à l'action et que tu réussisses à leur faire assimiler l'information qu'ils ont besoin d'assimiler. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, vu qu'il y a une pénurie d'emplois. Je sais qu'à l'époque, mes enseignants, c'était très long à avoir une permanence. Ça prenait comme quasiment 10 ans, genre. Puis quand c'est ta seule source de revenus ou quand c'est ta seule façon de faire, ben c'est sûr que ça peut être stressant, ça peut être plate, ça peut être très décourageant. En même temps, de mon côté, je le vois comme juste, c'est parfait, parce que ça veut dire que, bon, un moment donné, quand tu arrives à un certain nombre d'heures, ils disent « Ah, prenons un break d'un mois, là, ce mois-ci, on n'a pas de job pour toi, de sorte à ne pas te mettre permanent. » Je ne sais pas si c'est aussi complot que ça, si c'est aussi systématique pour utiliser les mots du premier ministre, mais systémique que ça, mais ça ne me fait pas peur. Fait que je me sens vraiment comme tout semble bien, et j'ai regardé l'échelle salariale proposée. Je te dirais que le haut de l'échelle salariale, je ne sais pas, je sais que ça fonctionne avec l'éducation, l'expérience et tout. Là, je ne pense pas que je vais commencer dans le haut de l'échelle, loin de là, mais atteindre le maximum de l'échelle salariale, je ne demande pas plus dans la vie. Je n'ai pas besoin de plus que ça pour soutenir le niveau de vie que je veux soutenir et être heureux de ce côté-là. C'est pour ça que j'avais appelé l'autre épisode un peu la loterie de la Providence, parce que c'est vraiment, comment ils appellent ça, l'État-providence, l'État-mère, l'État, tu sais, c'est des, j'ai l'impression, en tout cas, je ne l'ai pas fait, peut-être que la documentation, j'en reparlerai, mais c'est vraiment très respectueux comme échelle salariale. Je trouve que c'est quelque chose comme qui dit le chiffre, tu sais, puis c'est pas juste le chiffre dans la vie, mais il dit on respecte, on va avoir des gens compétents, puis on comprend qu'ils ont besoin d'argent pour être heureux à l'extérieur, pour être compétent, et voici ce qu'on a à offrir. Fait que c'est ça, j'ai fait l'application. Et pourquoi qu'aujourd'hui je réenregistre l'épisode? C'est parce que quand j'ai fini d'enregistrer l'épisode, je l'ai diffusé et tout, je l'ai programmé. Et sur l'heure du midi, j'ai reçu un téléphone d'Emika qui me disait qu'en fait, c'est le directeur adjoint et il me demandait pour passer une entrevue. Il voulait savoir si j'étais disponible cet été. Ce que j'ai répondu oui tout de suite. C'était un peu awkward. Dans le fond, dans ma tête, c'était plus comme je vais m'arranger pour être disponible, mais je voulais comme pas m'étendre. Je suis resté simple dans le truc. J'ai dit je suis disponible, pas de problème. Puis il me dit ma secrétaire va te recontacter et on va prendre un rendez-vous pour passer une entrevue. Il dit c'est sûr, on te promet rien, hein, c'est clair. Mais il dit on veut voir s'il y a un fit et tout. Fait que je suis très, très, très surpris, très. Très zen, très heureux de cette nouvelle-là. Je sais que ça peut avoir l'air totalement champ gauche vis-à-vis mes choix de vie actuels. Je pense que je suis rendu là. Si ce n'est pas cette fois-ci, ça va être une autre fois. Mais j'ai un bon sentiment. On dirait que le... Ouais, j'ai pas encore parlé de ça, là, mais je médite beaucoup ces temps-ci. Je vais en reparler. Puis... On dirait que cette espèce de cohérence-là, ce don, ce pouvoir d'attraction, quand tu y penses tout, c'est de dire présentement, je suis à l'endroit que j'ai besoin d'être. Tu sais, de pas se sentir mal, de juste comme c'est une série de choix. Parce que là, veux pas, dans les derniers temps, je commence à mettre moi-même une certaine pression de me trouver quelque chose que je veux faire. Parce que j'arrive à 40 ans puis j'ai pas vraiment d'objectifs clairs. J'ai un paquet de possibilités, d'opportunités, de gens avec qui je pourrais m'entourer, je pourrais faire de quoi. À part le café, que je pense... Ah, j'en ai-tu parlé? Non, je pense que j'en ai pas parlé. À part le café qui me trottait dans la tête beaucoup, même s'il y avait plein d'opportunités, il n'y a pas grand-chose qui m'allumait. Donc, c'est ça. Ça m'allume vraiment. Je vais te donner des nouvelles quand je vais passer l'entrevue. Je vais te dire comment ça s'est passé. Bien sûr, je veux rester quand même confidentiel dans le sens que je ne veux pas divulguer des choses que je ne veux pas divulguer, mais je vais plutôt parler de mes sentiments, comment ça s'est passé, de mon aperçu, de mon point de vue de cette entrevue-là. Et l'avenir nous dira si je deviendrai un enseignant au DEP. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.